Notre sujet général est bien celui-ci, les ministères dans l'Église. Et en exergue d'une étude de cette nature, nous pourrions placer cette parole de l'apôtre Paul qui est suffisant pour ces choses. Et puis aussi, cette autre parole, toujours de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Pour être une habitation de Dieu en esprit. Je pense que c'est là l'aspect fondamental de notre vocation céleste. Et notre vocation céleste, ce n'est pas une vocation future, c'est une vocation actuelle. Être une habitation de Dieu en esprit. Et si donc nous sommes une habitation de Dieu en esprit, je dis nous, je veux dire l'Église, et nous l'avons déjà désigné hier soir comme l'Église, corps de Christ. Nous n'en connaissons pas d'autres. Les considérations d'Église locale sur la terre sont utiles dans un certain nombre de cas, mais nous considérons l'Église corps de Christ. Et si donc nous avons été édifiés, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en lui vous êtes, c'est-à-dire chacun de vous, êtes édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Si cela est, par conséquent, c'est bien l'esprit qui doit se servir des hommes pour exercer le ministère de Jésus-Christ qui est la tête, nous l'avons rappelé hier, la tête du corps. Non pas le chef dans le sens de commandement, mais dans le sens de tête d'où part tout l'influx nerveux qui se dirige dans toutes les parties du corps. Et maintenant, après notre première réunion d'hier, nous allons aborder ce sujet, enfin nous l'avons déjà commencé, ce sujet qui entre dans le sujet général, les ministères sont d'institutions divines. Et maintenant, il nous faudrait considérer la délégation de Christ à ses disciples. La délégation de Christ à ses disciples. Et d'abord, cette parole que nous n'avons pas besoin de retrouver dans les pages de notre Bible parce que vous la connaissez bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et prenons-la quand même, c'est dans Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, tout à fait à la fin de cet évangile. Toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, les ministères ne sont pas abandonnés aux seules ressources de l'homme naturel, à ses ressources intellectuelles, fût-ce celles-ci très exercées par l'étude. Cela n'est pas en cause, mais c'est bien le Seigneur qui se propose, qui doit agir par le canal des hommes auxquels il va déléguer, selon son choix, ou selon le choix de l'Esprit Saint, c'est la même chose, auxquels il va déléguer des charges, avec les qualifications correspondantes, nous le verrons aussi. Ainsi, très brièvement, la mission confiée à l'Église, c'est la grande délégation, la délégation de base, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, et voici, je suis avec vous, je ne vous laisse pas seul, je suis avec vous. Je travaillerai avec vous, d'ailleurs le mot se trouve également dans l'Écriture, il travaillait avec eux, il était avec ses apôtres, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, pas seulement pour le temps les premiers temps, le temps des apôtres, la génération des apôtres, mais pour toutes les générations de croyants jusqu'au retour. Voilà donc la base de toute chose, de tout ce qui peut se faire, se dire dans l'Église. L'Évangile de Marc porte ceci, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et alors, nous allons prendre maintenant une autre délégation dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20 et au verset 21. Qu'il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà une délégation aussi extrêmement importante. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Première question, est-ce que cela nous atteint ? Cela est-il resté au temps des apôtres ? Était-ce seulement pour eux et non pour nous ? Impossible de penser cela. Si nous pensions cela, nous apporterions à l'interprétation, disons, la compréhension des Écritures, un bouleversement terrible. Bouleversement terrible. Ce n'est pas le moment de l'envisager, mais nous ne pouvons pas. D'abord, le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, a bien dit, ce n'est pas pour eux seulement, mes contemporains, que je prie, mais pour tous ceux qui croiront par leurs paroles, c'est-à-dire toutes les générations de croyants qui vont se succéder jusqu'à la fin de l'Église. Donc le Seigneur a prié pour tous, il a englobé toute l'Église dans la totalité de sa durée sur la terre, il l'a englobée dans sa prière et dans ses délégations. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons bien vu que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Par conséquent, c'est bien pour la totalité du temps de l'Église que le Seigneur prononce ses paroles et donne ses délégations. La question se trouve par conséquent réglée. Mais deuxième question, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que peut-on reconnaître comme contenu à ces paroles ? Eh bien, ceci. De la même manière que le Père m'a envoyé vers vous, pour le même objet, pour le même travail, avec le même esprit, et avec aussi les mêmes moyens, j'insiste là-dessus, les mêmes moyens, nous verrons la chose se confirmer, les mêmes moyens, Par conséquent, les ministères vont devoir employer, vont pouvoir employer les mêmes moyens. Que penserait-on, en effet, d'un maître de maison, selon les comparaisons même du Seigneur, qui partirait et qui dirait à ses serviteurs ou à ses employés, « Eh bien, vous voyez l'œuvre qui est à faire, l'œuvre que j'ai faite moi-même. Eh bien, cette œuvre, il faut la faire valoir, il faut continuer cette œuvre. Maintenant, je m'en vais, seulement je prends avec moi les moyens. Je prends, en somme, permettez-moi ce mot, les outils avec moi, et je vous laisse travailler comme vous pourrez. » Enfin, vous voyez que ça ne pouvait pas être cela la pensée du Seigneur. Comme je vous ai envoyé, de la même manière, pour le but unique de Dieu qui se poursuit avec les mêmes moyens, moi aussi je vous envoie dans le monde. Moi j'ai fait ma part, moi j'ai implanté le ministère, j'ai accompli la rédemption, ce qui m'était propre. Mais j'ai aussi implanté le ministère qu'il va falloir poursuivre, le ministère. Le ministère, on peut l'appeler le sacerdoce royal. C'est le terme qui lui est donné dans les Écritures. Le sacerdoce royal, le sacerdoce universel, c'est bien ce sacerdoce que le chapitre 4 des Éphésiens, que nous verrons, a en vue. Le ministère, quand il s'agit de préparer les membres de l'Église, les ministères vont avoir à préparer tous les membres de l'Église pour qu'ils participent au ministère, c'est-à-dire au sacerdoce universel. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, comme j'ai été, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis là, le Seigneur souffle sur eux, leur disant « Recevez le Saint-Esprit », ce n'était pas évidemment encore la Pentecôte, qui devait venir plus tard, mais ici, c'était pour que les apôtres puissent prier. Comment auraient-ils prié dans l'attente du jour de la Pentecôte? Ils devaient rester à Jérusalem selon les instructions même du Maître et prier. Comment auraient-ils prié s'ils n'avaient pas eu ce souffle du Saint-Esprit? C'était donc, mettons si vous voulez, les arts de ce qu'ils allaient recevoir lors de la Pentecôte. Il leur fallait l'Esprit pour prier. Et ensuite, il leur donne cette délégation importante, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous aurons l'occasion de revoir cette délégation, cette parole, vous la comprenez déjà, n'est-ce pas, bien sûr, en annonçant la parole de vie, la voie du salut, ou bien pour certains, nous ouvrons le royaume de Dieu, ou bien pour d'autres, nous enfermons la porte, pas nous si vous voulez, mais la porte se ferme pour eux. Mais, vous savez, cette délégation en particulier, elle se justifie par ce que je viens de rappeler rapidement, mais elle peut aussi intervenir d'une façon spontanée, sous l'action, une action inopinée du Saint-Esprit. Et cela m'est arrivé à deux reprises. Ce n'est pas très fréquent, par conséquent, mais enfin, cela m'est arrivé à deux reprises. Une fois, dans un hôpital, un dimanche après-midi, alors que j'étais assisté de quelques jeunes, nous allions voir un mourant, je me rappelle, un homme de la police, qui était d'une maigreur vraiment effrayante, mais il était lucide, très lucide. Et alors mes jeunes lui ont annoncé, et de tout leur cœur, avec toute la fraîcheur de leur foi, lui ont annoncé l'Évangile. C'était magnifique. Et puis, quand ils ont eu terminé, cet homme avait bu leurs paroles. Quand ils ont eu terminé, je me suis pris à lui dire, « Mon ami, va en paix, tes péchés te sont remis. » Et jamais, de moi-même, je n'aurais eu l'audace de dire une pareille chose. Mais le Saint-Esprit me l'a fait dire, en forme de prophétie. Donc cet homme est parti sauvé, et nous le savions. Voyez, le Seigneur nous le montrait. Donc vous voyez que cette délégation peut aller loin, dans un temps vraiment où le Saint-Esprit est tout à fait à la surface même de toute l'activité, de toute l'action entreprise, dans un temps, disons, de réveil, cela peut se produire. Alors, si bien que la parole de Dieu, voyez, il ne faut pas seulement vouloir l'expliquer dans un sens, il faut comprendre qu'elle a beaucoup de volume, la parole de Dieu, un volume souvent qui est au-delà de ce que nous pouvons penser ou croire. Et puis, dans Jean toujours, le Seigneur, je le rappelle seulement, dit, c'est à Jean 17, 18, dans la prière sacerdotale, s'adressant à son Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Donc cela, le Seigneur le dit dans sa prière à son Père, il rend compte en somme de cet envoi, de cette haute décision qu'il a prise à l'égard de toute l'Église. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. Nous pourrions aussi, puisque nous parlons de délégation, regardez dans acte 22, le verset 21, et qui s'adresse à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voilà Saul de Tarse qui lui ici, en particulier, reçoit le renouvellement de cette délégation, va, je t'enverrai au loin, vers les nations. Et puis, enfin, tout à l'heure j'y faisais allusion, dans l'Apocalypse, au chapitre premier, et au verset 5, chapitre 1er, verset 5b, c'est-à-dire la deuxième moitié du verset 5 et le verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Qui a fait de nous, c'est-à-dire de tous les membres de l'Église, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, pensons à ceci. Le Seigneur est roi et sacrificateur, souverain sacrificateur. En général, on parle des trois offices du Seigneur Jésus-Christ, qui sont la souveraine sacrificature, qui est particulière, puisque la victime qu'il offre, c'est lui-même qui est la victime. La souveraine sacrificature qu'il exerce, selon l'ordre de Melchisédek, ou à la manière de Melchisédek, et puis la royauté, et puis, enfin, la prophétie, les trois offices du Seigneur Jésus, souverain sacrificateur, roi et prophète. Et souverain sacrificateur et roi, vous savez que cela n'était pas possible sous l'empire de la loi de Moïse. Il fallait que le sacrificateur, lui, provienne de la tribu de Judas, que le roi, pardon, provienne de la tribu de Judas et que le souverain sacrificateur provienne de celle de Lévi. Il y avait donc deux provenances séparées et il était impossible à un même homme d'exercer à la fois la souveraine sacrificature et la royauté. Un roi l'a tenté, et vous savez qu'aussitôt, il s'est trouvé couvert de lèpre, et il a fallu que, c'est le roi Ozias, il a fallu qu'on le fasse sortir immédiatement du temple. Et pourtant, le prophète Zacharie, dans son chapitre 6, annonce quelque chose qui va à l'encontre précisément des dispositions de la loi de Moïse que nous venons de rappeler, parce que il dit cet homme dont le nom est germe, comprenons bien de qui il s'agit, cet homme dont le nom est germe germera en son lieu, il sera roi, il aura la majesté, c'est-à-dire il sera roi, et il sera sacrificateur sur son trône. Tout en étant assis sur son trône, il sera sacrificateur, c'est-à-dire qu'il va confondre en sa personne ces deux offices de la sacrificature et de la royauté. Chose extraordinaire. Heureusement, à ce moment-là, on rentrait de Babylonie, et les rigueurs étaient émoussées à ce moment-là. On ne s'est pas saisi du prophète Zacharie pour lui dire, mais que dis-tu là? Tu dis une chose abominable. Quelqu'un qui est roi et sacrificateur à la fois. Et il s'agissait de Jésus, et dans la même prophétie, Zacharie est amené par sous la direction du Saint-Esprit à préparer des couronnes, et ces couronnes or, argent, on disposait d'or et d'argent qu'on avait ramené de Babylone, et ces couronnes, il s'agissait de les poser sur la tête du souverain sacrificateur de l'époque, c'est-à-dire Josué. Chose extraordinaire. Et ce souverain sacrificateur Josué, à la place de sa tiare, en Finlande, s'est vu coiffé de cette tiare particulière qui était l'insigne royal. Il a dû trembler de tous ses membres au moment. Et cela était prophétique, n'est-ce pas, montrait que le Messie, l'homme dont le nom est germe, et qui allait venir, lui allait réunir en sa personne la souveraine sacrificature et la royauté. Or, cela étant, nous le savons, pour nous, il n'y a rien qui nous étonne à cela, enfin que le prophète l'ait dit cinq ou six siècles avant la naissance du Seigneur, c'est tout de même quelque chose de considérable, cela, mais ça ne nous étonne pas maintenant, nous savons très bien que notre Sauveur est souverain sacrificateur et roi tout à la fois. J'ai eu l'occasion d'étudier de près la royauté du Seigneur dans le temps présent et dans le temps à venir. Il y a deux formes de royauté, si l'on veut bien. Eh bien, cela ne nous étonne pas, certes, mais c'est quelque chose de considérable. Et alors, puisque c'est un fait, eh bien, il faut que les disciples soient eux aussi, forment eux aussi un royaume. Ils doivent recevoir participation de ces deux offices de leur maître, la royauté et la sacrificature. Et c'est pourquoi, par son sang, le Seigneur a fait de ses rachetés un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et cela nous situe déjà à un niveau élevé ce que seront les ministères dans l'Église. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Si l'on ne regarde pas les choses sous cet angle, que fait-on? Eh bien, on dévalue, on abaisse ce que Dieu a lui-même décrété, ce qu'il a institué, ce qu'il a voulu, et c'est une chose toujours redoutable que d'être en dessous de ce que Dieu a fait et voulu. Ainsi, c'est à nous de nous élever maintenant à cela. Voilà ce que Dieu a décrété, voilà ce qu'il veut toujours maintenant concernant l'Église et ceux qui auront charge de ministère sur l'Église. Maintenant, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Il est certain que toutes ces questions appellent une réponse négative. Il est évident que ça n'est pas, ces dons, ces ministères ne sont pas donnés d'une façon uniforme, mais à certains. C'est bien ce que nous comprenons ici. Les ministères et les dons sont côte à côte dans ce passage. Il semblerait que les ministères qui sont d'abord énumérés, puis à leur suite les dons, il semblerait que ils forment ensemble un tout. Alors sur cette pensée-là, nous reviendrons et nous montrerons que c'est vrai, en effet, que les dons et les ministères sont à rapprocher et se tiennent. L'ordre de succession que nous trouvons ici, à savoir apôtre, prophète, docteur, cet ordre de succession se retrouve dans un autre texte, et je pense qu'il est important. Les apôtres sont en tête, nous le comprendrons quand nous regarderons d'un peu plus près ce qu'est le ministère d'apôtre, puis ensuite les prophètes et les docteurs. Dieu a établi dans l'Église, cette décision de Dieu ne peut pas avoir un caractère temporaire. On l'a pensé, il est possible encore que certains le pensent, mais ça ne peut pas du tout résulté de ce texte, ni même de certains autres passages. Cette décision de Dieu a un caractère permanent. S'il en avait été ainsi, c'est-à-dire s'il y avait cet établissement, cette décision établissant des ministères, avait eu un caractère temporaire, eh bien, l'Église aurait cessé d'être un corps. elle aurait cessé d'être un corps formé de membres aux fonctions différenciées. Elle aurait cessé tout simplement d'être un corps. Or, c'est dans le même chapitre, vous le connaissez, je ne vais pas le relire, chapitre 12, à partir du verset 12, où l'apôtre Paul fait sa démonstration en rapprochant un organisme humain de l'Église corps de Christ. Par conséquent, si les dons et les ministères qui sont cités n'étaient pas restés, n'avaient eu qu'un caractère transitoire, eh bien, alors l'Église aurait cessé d'avoir des fonctions diverses, différenciées, elle ne serait plus tout simplement un corps. Or, elle est un corps, il faut qu'elle le reste, elle ne peut pas être autre chose que cela. Dans Éphésiens 4, nous avons comme énumération apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, les ministères sont désignés par les dons qui les constituent. Je prends Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, nous voyons donc là le prophète, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et là nous pouvons voir le ministère de pasteur-docteur, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, alors plus particulièrement celui de docteur, là, le précédent pasteur, disons, et celui-ci docteur, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ici, le but de l'apôtre inspiré est surtout de montrer que tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Au verset 4, en effet, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs... » Alors, je redis ce que j'ai déjà dit en grec, cela correspond à une foule. Nous qui sommes très nombreux, nous qui sommes une foule, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ce qui veut dire que nous avons tous besoin les uns les autres dans la particularité, la spécificité de chacun. Chacun apporte la spécificité de sa fonction et cela est nécessaire au corps. Nous voyons bien par cela, je le redis, que les ministères tels qu'ils sont nommés dans ces textes ne peuvent pas avoir de caractère transitoire, ils viennent aujourd'hui. Nous pourrons dire qu'il y a des apôtres, même si on ne les connaît pas sous ce nom, il y a des prophètes, même aussi, si on ne les connaît pas, ces derniers sous ce nom, et il y a, bien sûr, des pasteurs, des docteurs, tout est dans l'Église, si nous le voulons bien, si nous sommes persuadés que cela est indispensable à la vie, à la vitalité du corps qu'est l'Église, eh bien, nous serons ardents dans la prière, à demander au Seigneur qu'il envoie des ouvriers qualifiés de toutes les manières différentes dans sa maison. Et nous avons aussi à voir, et nous nous y arrêterons ultérieurement, à voir une autre catégorie qui n'est pas citée dans les textes, elle apparaît ailleurs. C'est bien d'ailleurs ce qui a causé des problèmes si l'apôtre Paul avait pu citer les anciens, les diacres, dans son énumération, cela aurait simplifié de beaucoup l'exégèse des textes. Mais ce sont les anciens, presbyteroi, c'est-à-dire presbytros en traduction française, qui a donné prêtre. Et puis, un autre terme grec qui est également connu, episkopoi, qui a donné épiscope ou évêque, et le sens de ce dernier texte, de ce dernier terme, pardon, est exactement celui de surveillant. Eh bien, ce sont là des charges qui proviennent aussi d'institutions divines. En effet, dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 28, nous sommes ici dans le discours de Paul à Milet, discours tenu aux anciens de l'église d'Éphèse, que l'apôtre avait convoqué à Milet. Et au chapitre 20, verset 28, nous lisons ceci. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscope. Vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Si bien que là, nous avons la preuve que Paul, qui ne s'y trompe pas, reconnaît bien que le ministère, qu'il y a un ministère d'anciens, puisqu'il emploie aussi le mot presbyteroi, il y a donc un ministère d'anciens, qui est aussi appelé ministère d'évêque, et que ce ministère est d'institution divine. Il le reconnaît. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Et dans l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, nous, pour l'instant, nous effleurons cette question, mais nous y reviendrons. Au chapitre 1er de, la première épître de Pierre, chapitre 5, et au verset 1, nous lisons, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, presbyteroi, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il est certain que quelquefois, il est apparu plus facile de dominer que d'être modèle, que d'être le modèle du troupeau. Être le modèle du troupeau, ça n'est pas quelque chose, comme on dit aujourd'hui, d'évident. Il faut l'être vraiment. L'être vraiment, et cela requiert évidemment des qualités, des caractères qu'il faut posséder et pouvoir manifester. Et puis enfin, dans les pastorales aussi, nous voyons apparaître la charge d'anciens. Et je voudrais ce soir aussi, avant de terminer, parler des diacres au chapitre 6 des Actes. Pour l'instant, nous ne faisons que situer ces ministères, pour nous réserver de les considérer de plus près ultérieurement. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il est convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous pouvons dire qu'une légère différenciation peut apparaître dans les textes entre évêques et anciens, mais en tout cas, il y a là une différenciation plus prononcée entre anciens et diacres. L'Écriture cite même des diaconesses dans le chapitre 16 des Romains. Il y a une femme qui est appelée diaconesse et qui est reconnue dans la fonction qu'elle exerce. Ces diacres ne sont pas étrangers aux tâches spirituelles. Il ne faut pas croire qu'ils avaient simplement des tâches d'ordre matériel. On a beaucoup d'ailleurs discuté sur la nature exacte des tâches qui sont ici caractérisées par « pour servir aux tables ». Certains ont parlé de répartition d'argent, etc. On n'a rien de bien sûr à ce sujet. Gardons le texte tel qu'il est, pour servir aux tables. Mais ces diacres avaient aussi leur part aux tâches spirituelles, mais leur destination les orientait surtout vers l'intendance, vers la gestion, vers l'assistance, ainsi que toutes les tâches d'ordre pratique. Il n'y a pas de doute que ces tâches existent et qu'elles doivent être honorées, elles aussi. L'apôtre Paul nous dit bien que l'œil ne doit pas se montrer orgueilleux à l'égard du pied, par exemple, dans un organisme, parce que si l'œil n'avait pas de pied, il verrait toujours le même horizon, tandis qu'avec des pieds, il peut changer d'horizon. Donc les pieds sont extrêmement nécessaires à l'œil. Et par conséquent, les diacres, si nous les voyons surtout cantonnés dans des questions d'intendance et de gestion, sont tout aussi nécessaires que les ministres qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Le défaut de sagesse dans l'exercice du diaconat peut être générateur de difficultés. D'un autre côté, même en exécutant des tâches d'ordre pratique, le besoin d'une plénitude du Saint-Esprit n'est pas un luxe du tout. Moi, j'ai fait un jour une expérience, par exemple, j'étais allé un après-midi ouvrir la salle, il n'y avait pas de réunion à ce moment-là, je passais par là, pour voir si tout était bien en ordre et si le ménage avait bien été fait. Et justement, je m'aperçois que le ménage n'avait pas été fait. Alors, j'ai fait une chose toute simple, j'ai quitté ma veste, j'ai pris le balai, tout ce qu'il faut, j'ai ouvert les portes, et je me suis mis en voie de balayer la salle. Alors, j'étais en train de faire cela lorsque des personnes sont passées sur le trottoir, voyant la porte ouverte, ils ont vu, il y avait des bancs, nous avions surtout des bancs à cette époque, encore l'époque des bancs, et ils ont vu donc une salle avec des bancs, ils ont regardé, ils étaient curieux, et ils m'ont aperçu, je me suis approché, et je leur ai dit, eh bien, vous cherchez à savoir ce que c'est, ça, bien, je vais vous le dire, c'est une salle évangélique, c'est une salle dans laquelle une communauté évangélique se réunit régulièrement, et puis cela a suscité quelques questions auxquelles j'ai répondu, et puis je leur ai annoncé la voie du salut. Eh bien, tout en tenant le balai, le besoin de l'assistance de l'esprit n'était pas de trop. Vous voyez par conséquent que même en accomplissant des tâches, disons, subalternes, si tant est que nous les considérions comme ça, moi je pense qu'il ne le faut pas, mais enfin des tâches, disons, pratiques, matérielles, eh bien la nécessité d'une bonne possession de tous les moyens de l'esprit est à considérer. Voilà, eh bien ce soir je m'arrête là-dessus.